On est dans la lecture du début de la Bible, dans Genèse. On est dans le jardin d'Éden. C'est magnifique, ça nous fait des fois une petite aspiration. On aimerait y être dans ce jardin où tout est beau, merveilleux. Mais bon, un jour, ce sera encore mieux, puisqu'il n'y aura pas cette possibilité de chuter, de pécher, comme ça s'est révélé réel dans le jardin d'Éden. Donc, il y a mieux que le jardin d'Éden qui nous attend à la fin. La semaine dernière, Éric nous a parlé de Genèse chapitre 1 et il a exposé un certain nombre d'éléments qui ont pu être un peu déroutants, un peu problématiques pour plusieurs d'entre nous. J'ai relevé trois problèmes. Le premier, c'est qu'on sait que la Genèse nous parle des origines de notre monde. Et comme on est confronté à différentes théories, le créationnisme, l'évolutionnisme, eh bien, on cherche des réponses dans ce livre. Et voilà notre premier problème, c'est qu'on lit la Genèse avec une vision orientée, on y cherche certaines réponses et ça nous pousse à les trouver là où peut-être il n'y en a pas, peut-être qu'on parle d'autre chose. Le deuxième problème, c'est que la Genèse est remplie d'anthropomorphisme. On a dit ce mot compliqué, mais finalement qui est essentiel dans la Genèse, c'est qu'on attribue à Dieu des caractéristiques, à Dieu ou à la création, des caractéristiques humaines. Et la création du monde dans la Genèse est décrite avec des caractéristiques qui se rapportent aux hommes. Parce que pour nous, eh bien c'est la seule manière qui nous permet d'imaginer quelque chose. On peut imaginer des situations, des êtres, des lieux, en utilisant que des termes qui sont connus. C'est pareil que ou c'est différent de, mais en réalité, on se réfère à ce qu'on connaît, vous et nous. Alors, c'est notre deuxième problème, c'est que ce vocabulaire, ces repères qui sont utilisés sont tellement humains qu'on a l'impression qu'ils sont vrais, mais non. Avec ce mot, cet anthropomorphisme, cette manière de caractériser Dieu avec des mots humains, en même temps, il faut toujours garder un écart entre les termes et ce qui est décrit. Ce n'est pas parce qu'on dit que Dieu parle que Dieu a une bouche. Et il faut bien garder dans notre tête qu'il y a cet écart. Et c'est notre deuxième problème. Le troisième problème, c'est que là où on aimerait Einstein et Marie Curie, on se retrouve avec Baudelaire et Lamartine. Alors c'est joli les images, c'est joli la poésie, mais bien sûr on ne peut pas l'interpréter de la même manière. Alors, c'est déroutant. Ça fait beaucoup de problèmes pour un seul texte, ça je vous l'accorde. Mais alors, finalement, est-ce qu'on peut vraiment comprendre quelque chose d'un texte poétique? À part qu'il est beau, Éric nous a montré la semaine dernière que c'est un chef-d'œuvre du point de vue de la littérature hébraïque, d'accord? C'est aussi un texte qui se différencie de tous les récits autres existants qui essayent de justifier la création du monde dans différentes philosophies. Je pensais à quelque chose. Quand on lit un roman, il y a toujours un personnage principal, un héros dans l'histoire, et puis on le suit de fil d'histoire en histoire. Dans la Bible, il y en a beaucoup, on pourrait trouver Moïse, Josué, Daniel avec la fosse au lion, Ruth, Esther, après Jean-Baptiste, les disciples, ils ont des vies, Paul, extraordinaires. On pourrait penser que ce sont eux, les héros de la Bible, mais en fait, on fait fausse route. Du début à la fin de la Bible, il n'y a qu'un seul héros, qu'un seul personnage principal, et c'est Dieu. C'est Dieu qui est au centre. C'est lui qui choisit Moïse, qui le qualifie, qui le fait réussir dans ses entreprises, qui l'a formé pendant 40 ans. C'est lui qui a choisi David, qui lui a donné la capacité de mener et de gouverner ce peuple, qui lui a pardonné aussi ses péchés. Malgré son infidélité, Dieu est resté fidèle. Qui est le héros? L'infidèle ou celui qui persévère dans sa fidélité? On peut continuer ainsi sur tous les personnages qu'on trouve dans la Bible que nous, on a tendance à porter en héros et en se dire « jamais nous on n'y arrivera, on n'est pas à la hauteur de ces gens-là, on n'a pas une vie aussi trépidante, aussi exaltante qu'eux ». Mais en réalité c'est faux. C'est faux parce que c'est Dieu le héros de leur vie. Il montre sa puissance, il montre sa bonté. le monde tourne autour de Dieu et non pas autour de nous. C'est lui le pivot du monde. Alors je vous propose de lire ce deuxième chapitre de Genèse avec cette pensée de découvrir qui est ce héros de la Bible qu'on a déjà aperçu dans le premier chapitre de Genèse, qu'on va continuer à connaître davantage dans ce deuxième chapitre. Souvenez-vous que la répartition en journée qu'on a eue dans le premier chapitre, eh bien, elle n'apparaît plus dans le deuxième. L'ordre est aussi différent dans l'apparition des créations. Alors, ça serait grave si c'était un récit scientifique, mais dans un récit poétique, ce n'est pas grave. Alors, lisons maintenant le texte de Genèse au chapitre 2. Je l'ai divisé en trois parties et puis on va simplement commenter ces trois parties au fur et à mesure. La première partie, c'est Genèse 2, versets 4 à 7. La fin de Genèse 1, Eric avait lu jusqu'au verset 3 parce que ça finit vraiment, c'est un ensemble. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Je m'arrête là dans cette première lecture avec trois remarques pour cette partie. La première, c'est que le chapitre 2 n'est pas la suite du chapitre 1. Il n'est pas non plus exactement la même chose que le chapitre 1. Il ne redit pas les mêmes choses sous un angle différent. Il prend quelques éléments qu'on retrouve dans les deux chapitres et puis il complète avec d'autres informations. Alors ici, on ne retrouve pas le découpage en six journées, je vous l'ai dit. L'ordre des éléments créés non plus. Mais ce qu'on retrouve, et c'est très fort si vous regardez les verbes qui sont utilisés, c'est que le sujet de ces verbes, celui qui fait toutes ces actions, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la création de A à Z. Il fait tout. La deuxième remarque, il est dit que Dieu façonne l'homme, comme un potier avec de l'argile. Alors cette image, elle nous parle, elle est belle. Elle est tirée de notre quotidien. On voit bien ce que c'est qu'un potier et comment il façonne. Mais voilà, Dieu n'a pas de main. Il ne va pas façonner l'homme. C'est une image, humaine, et dit autrement, on pourrait dire que Dieu crée l'homme. Mais quoi qu'il en soit, en utilisant ce terme façonné, on voit le soin que Dieu prend quand il crée les hommes. Et c'est certainement quelque chose qui a voulu être souligné par ce terme. Troisième remarque, le souffle de vie. Il en est question dans le verset 7 du chapitre 2. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce souffle de vie, c'est la différence fondamentale, entre les hommes et les animaux. Les animaux ont aussi été créés et façonnés, l'homme créé et façonné, les termes sont identiques, mais l'homme, dans le chapitre 2, a un souffle de vie. Encore une fois, Dieu n'a pas de bouche. Il n'a pas soufflé sur l'homme pour lui donner ce souffle qui serait venu de lui. C'est une image, il faut garder cette distance. Dans le chapitre 1, qu'est-ce qui distinguait l'homme des animaux ? C'était que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Dans le chapitre 2, ce qui le distingue, c'est que Dieu souffle sur l'homme pour lui donner vie. Finalement, ces deux caractéristiques particulières pour l'homme pourraient être les deux facettes, les deux manières de dire la même chose, à savoir que Dieu a créé un homme à son image et ce qui prouve que c'est à son image, c'est que c'est lui qui vivifie l'homme. C'est deux manières de dire la même chose. En Mésopotamie, il existait des rituels par lesquels les statues des dieux étaient vivifiées. Et de la même manière, ce qui se passe ici avec le récit qu'en fait l'auteur, c'est comme un rituel que Dieu met en place pour donner un statut particulier à l'homme. Il proclame par ce geste, par ce rituel, que l'homme est à son image, le même souffle. Alors, petit résumé de cette partie, Dieu a tout fait. Et je vous encourage à relire, et même quand on va lire la suite, à regarder tous les verbes et à chaque fois Dieu, Dieu, Dieu. Dieu fait tout et il fait l'homme d'une manière très particulière, avec un statut particulier. Deuxième partie, les versets 8 à 17. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du choix entre le bien et le mal selon les versions. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom de l'un était Pishon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée Onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gilon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, quelques petites remarques sur ce passage. Deux, on va juste regarder les deux arbres qui sont plantés dans ce jardin. L'arbre de vie d'abord. L'arbre de vie, on le retrouve dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, et il symbolise la résurrection et la vie éternelle. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il portera son fruit chaque mois, c'est-à-dire tout le temps, sans s'arrêter. Il sera toujours présent, toujours disponible. Et il est dit aussi que la mort, qui est la malédiction du péché, n'existera plus au ciel, au paradis. Et on comprend bien que comme l'arbre est présent, sans interruption, toujours disponible, il représente bien cette immortalité. Cette immortalité, c'est une caractéristique de Dieu. Elle n'appartient pas à la nature humaine, même avant la chute. Il fallait que l'homme mange de cet arbre, du fruit de cet arbre. Elle était offerte à l'homme, elle était donnée par Dieu à l'homme. On voit bien la différence entre le Créateur, Dieu, qui possède cette immortalité, et la créature qui en bénéficie parce que le Créateur la lui donne. Deuxième arbre important, l'arbre du choix ou de la connaissance entre le bien et le mal. Peut-être plus complexe pour l'aborder. Dieu ordonne à l'homme de prendre soin du jardin. Il lui ordonne de manger librement des fruits de tous les arbres et il lui interdit un seul arbre. En même temps qu'il ordonne et qu'il interdit, il dit aussi à l'homme ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Cette connaissance particulière représentée par l'arbre, elle pourrait être comprise comme une aptitude à décider de ce qu'il faut faire ou non, sans doute en réfléchissant, en pesant le pour et le contre, on pourrait dire avec discernement. On retrouve cette expression employée ailleurs dans la Bible, et notamment concernant Salomon. Salomon, quand même réputé pour cette sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il demande à Dieu cette sagesse. Il demande à Dieu de l'aider à gouverner avec sagesse son peuple. Cette aptitude, elle n'est pas innée. Tout comme l'immortalité, il fallait manger du fruit de l'arbre. Cette connaissance, elle n'est pas dans l'homme. Elle est en Dieu, elle est réservée à Dieu, qui la dispense, qui la donne à Salomon quand il la lui demande, qui nous la donne quand on la lui demande. Salomon la demande à Dieu. Adam et Ève recherchent dans la consommation d'un fruit défendu cette même connaissance. Quoi qu'il en soit, Adam et Ève font un mauvais choix juste avant d'espérer avoir un discernement supplémentaire pour faire les bons choix en consommant le fruit. Ils font ce mauvais choix juste avant d'avoir ou d'espérer avoir une intelligence supérieure. Et en désobéissant à Dieu, ils se coupent de leur dépendance à Dieu. Dieu leur avait donné un ordre. Eux font autre chose. Ils disent non, Dieu, tu n'es pas le maître de mes choix. C'est moi qui suis le maître de mes choix et qui décide en indépendance, en autonomie par rapport à toi. Dieu ne règne plus sur toutes leurs décisions. Il est intéressant de remarquer que cette situation met le doigt sur une tentation très humaine et fondamentale chez nous. Dieu avait défini un espace de liberté avec une limite. Et la désobéissance qui refuse cette restriction clame finalement sa volonté de pouvoir jouir de tout le jardin, sans limite, sans restriction. Et c'est bien une tentation profondément humaine, ancrée en l'homme et en la femme. Avoir tout sans limite, pouvoir jouir de tout ce qui se présente à nous. Et c'est ainsi que les objets qui nous entourent, que même les personnes qui nous entourent, deviennent des moyens d'assouvir nos envies. Et on voit que finalement, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on le retrouve dans notre monde. Et certainement, vous faites le même constat que moi, qu'on le retrouve dans notre vie. Alors, petit résumé de cette deuxième partie. Dieu est toujours l'acteur de tout ce qui est fait dans ces versets. Il place l'homme dans un jardin merveilleux. Il définit ce qui est bon et mauvais pour l'homme. Il lui offre un cadre merveilleux. Dieu offre à l'homme une activité également, une place, un rôle dans cette œuvre que lui-même a créée du début à la fin. Troisième partie, pour finir notre chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi un homme se sépara de son père et de sa mère. Et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus que un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Ce texte est bien connu, il est beau, il est tellement imagé que, voilà, on fait vite un film dans notre tête, la manière dont ça s'est passé, c'est très très poétique. Mais encore une fois, n'oublions pas que, eh bien, c'est truffé d'anthropomorphisme et qu'il faut garder cette distance toujours entre la description et l'objet qui est décrit. Alors, si on le comprend littéralement, sans faire cet écart, sans tenir cet écart, on voit un Dieu qui se parle à lui-même et qui constate « Oh, en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul !» Et puis, il est surpris par le fait que Adam ne trouve pas de vis-à-vis parmi les animaux. Et puis, il improvise une solution. En créant la femme, il endort l'homme, et puis il prend une côte, et puis il crée cette femme. Alors c'est une description qui est vraiment faussement naïve, bien sûr. Ça reste poétique. Alors d'une part, Dieu n'a pas d'homme, on l'a dit, il ne façonne pas. Il n'a pas une connaissance limitée qui le fait devoir attendre que l'homme nomme les animaux pour savoir comment il va les nommer. C'est un petit peu ce qu'on comprend en lisant le texte. Et puis, qui serait tout d'un coup surpris en constatant qu'il y a un problème, qu'il manque quelqu'un peut-être pour l'homme. On ne va pas prendre ces descriptions au pied de la lettre, on va essayer d'en retirer quelques petites remarques. J'en ai choisi 4. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut choisir. Alors, j'en ai choisi 4. La première, c'est que les animaux et l'homme ne sont pas au même niveau. Dans le Proche-Orient ancien, nommer les choses était très important. C'était un acte scientifique, pratiquement. Par conséquent, on peut déduire que si l'homme nomme les animaux, il a un statut supérieur aux animaux. D'autre part, ça fait écho aussi à ce que Dieu a fait dans le premier chapitre. Dieu a nommé les différents éléments de la création. L'homme accomplit dans ce deuxième chapitre une action qui est accomplie par Dieu dans le premier. L'homme a l'image de Dieu. Première remarque. Deuxième remarque, regardons un petit peu la création d'Ève. Ève arrive avec un retard. Et ce retard, plus cette attente de l'homme, montre qu'elle a une importance toute particulière pour l'homme. Elle est le vis-à-vis de l'homme, nous dit la parole. Non pas seulement parce qu'elle serait un autre être humain, un autre homme aurait pu faire l'affaire sinon. Non, mais parce qu'elle est différente, elle est autre. D'ailleurs, même sa création diffère de celle de l'homme masculin. La femme est l'aide de l'homme en tant que son vis-à-vis. Alors on est loin de la servante. D'autres passages dans les psaumes citent Dieu comme aide de l'homme, avec les mêmes termes. Donc si la femme est une aide pour l'homme, c'est aussi parce que l'homme en a besoin. Il n'arrive pas tout seul. On est loin, bien loin de la compréhension de la femme comme un objet ou comme un simple auxiliaire pour l'homme. Ève. Troisième remarque sur le verset 24, qu'on peut peut-être afficher. Le verset 24 a un statut particulier dans ce texte parce qu'il est un commentaire de l'auteur qui s'adresse directement à nous. Il nous dit que la manière dont Dieu a formé la femme à partir de la côte de l'homme et la manière dont il a présenté la femme à l'homme, cela constitue la base de leur union, de leur mariage. Je propose de relire ces versets. C'est pourquoi, et donc on voit bien que c'est la suite de ce qui précède, le fait que la femme a été créée différemment, tirée de l'homme, et le fait, la manière dont Dieu l'a présentée à l'homme, c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ils deviendront une seule chair, avec une allusion implicite à l'union sexuelle, c'est vrai, aussi à la monogamie, un homme, une femme. C'est un verset qui est clé dans le mariage, hein, bien sûr, et il est souvent cité avec raison. Dernière remarque sur la nudité, qui est juste abordée en fin de chapitre. On remarque qu'ici, elle ne pose aucun problème. Ils se voient tels qu'ils sont, et ils sont différents. Mais cette différence n'est pas un problème, n'est pas une cause de tension entre eux. Il y a une totale acceptation, une appréciation de l'autre, l'autre différent de moi. Et on sait, n'est-ce pas, vous faites aussi cette expérience, qu'il est tellement plus facile de s'entendre et de travailler avec des gens qui sont comme nous. Parce qu'on pense, on est pareil, on réfléchit de la même manière. Et que la différence, même si on sait théoriquement que c'est un avantage, que c'est un plus, elle est difficile à gérer. Et on voit ici que cette différence n'est pas difficile à gérer, elle est acceptée et appréciée pleinement. Voilà un petit survol du chapitre 2 de Genèse. Alors en conclusion, je dirais que le projecteur, il faut bien le placer sur Dieu. Il est au centre de ce texte. C'est lui le héros et le personnage principal. Dieu possède la vie éternelle et il en fait bénéficier l'homme, ainsi que de toute sa science, sa connaissance. Il donne un rôle à l'homme dans cette création merveilleuse. Et l'homme a une place toute particulière, une valeur particulière à l'image de Dieu, avec cette relation toute spéciale entre Dieu et sa créature. Dieu, héros de la Bible, donne aussi un sens à notre existence. Dans ce texte, il fonde notre dignité d'être humain, notre valeur. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à l'image de ce Dieu si extraordinaire. Nous reflétons Dieu, tous, chacun de nous. Et même après la chute, qu'on verra la semaine prochaine, ça ne gomme pas ce qui s'est passé à la création et cette relation très particulière entre Dieu et nous. L'homme reste une création qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, nous sommes désormais pécheurs, oui, mais nous gardons une place toute particulière aux yeux et dans le cœur de Dieu. La preuve, s'il en fallait une, la preuve de notre valeur à ses yeux, la preuve de son amour pour nous, on la trouve à la croix, bien sûr. Il sacrifie son Fils unique, saint, parfait, pour des hommes pécheurs et rebelles. Pas à cause de nos mérites, mais à cause de lui-même, à cause de ce héros de ces deux chapitres, à cause de qui est ce héros, ce Dieu plein d'amour pour nous, et qu'on voit d'une manière spectaculaire agir dans ces deux premiers chapitres de Genèse. Je vous encourage à les relire et à regarder ce héros afin qu'il puisse être aussi et qu'on puisse s'appuyer sur lui dans notre quotidien. Amen.